Et le journal, c'est avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Hommage national à Arnaud Beltrame aux Invalides. Emmanuel Macron voit dans son sacrifice l'esprit de résistance des Français. Après les attaques de Trèbes et Carcassonne, le chef de l'État appelle chaque citoyen à un regain de vigilance et de civisme pour combattre l'islamisme souterrain. Marche blanche contre Lancy, sémitisme à Paris et dans plusieurs villes. Une mobilisation pour dénoncer le meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, qui avait échappé à la rafle du Veldiv. Un nouveau préfet nommé à Mayotte, c'est l'actuel directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer qui est envoyé sur place pour tenter de calmer la crise sociale. Envolée des naissances en Allemagne, dans ce pays connu pour son faible taux de natalité, les naissances ont fait un bond de 7% en 2016. Silence et émotion ce matin aux Invalides. Un hommage national a été rendu à Arnaud Beltrame, promu colonel à titre posthume pour son acte de bravoure face aux djihadistes qui avaient pris des otages vendredi dans un supermarché de Trèbes. Anne Fauquemberg, vous avez suivi la cérémonie et Emmanuel Macron a convoqué le récit national pour saluer l'héroïsme de l'officier de gendarmerie.
Arnaud Beltrame qui a donc donné sa vie vendredi dernier pour permettre à la dernière otage du terroriste Radwan Lagdim de s'enfuir du supermarché de Trèbes. Un geste puissant qui a touché tout le pays ces derniers jours et célébré avec tous les symboles de la République. 11h50 ce matin, Emmanuel Macron fait son entrée dans la cour des Invalides. La Marseillaise retentit. L'hymne national, suivi d'un grand silence. Le chef de l'État passe en revue les troupes, salue les familles des victimes, place à l'éloge funèbre, sous le signe donc de l'héroïsme.
Le lieutenant-colonel Beltrame s'est trouvé face à la part la plus profonde et peut-être la plus mystérieuse de son engagement. Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de la fidélité à soi-même, à tout ce qui le tenait.
Pour le chef de l'État, Arnaud Beltrame incarne l'esprit français de résistance. Il l'inscrit dans les pas de Jean Moulin, Pierre Brossolette, les héros anonymes de Verdun ou encore les Justes. L'intolérable jamais ne peut l'emporter, ajoute Emmanuel Macron en se lançant dans un réquisitoire contre l'islamisme souterrain, celui des réseaux sociaux notamment.
C'est un ennemi insidieux qui exige de chaque citoyen, de chacun d'entre nous, un regain de vigilance et de civisme. Il s'agit là, et depuis plusieurs années, d'une nouvelle épreuve. Mais notre peuple en a surmonté beaucoup d'autres.
Le chef de l'État qui incite aussi la jeunesse à prendre exemple sur Arnaud Beltrame avant de s'avancer donc vers le cercueil de l'officier de gendarmerie recouvert d'un drapeau tricolore. Emmanuel Macron l'élève au grade de colonel et au rang de commandeur de la Légion d'honneur à titre posthume.
Et la cour des Invalides était ouverte au public ce matin, ça n'est pas toujours le cas pour les hommages nationaux. Plusieurs centaines de personnes ont ressenti le besoin d'assister à cette cérémonie républicaine, Anne.
Oui, toute génération confondue. Et parmi les plus anciens, il y avait Marcel qui a connu la Seconde Guerre mondiale et qui se sentait tout en résonance avec le discours du chef de l'État.
Je suis dans ma 88e année et je suis la plus jeune résistante de la France de la guerre 39-45. Je pense à tous les résistants qui sont morts pour notre liberté à tous, quels qu'ils soient.
Une présence des plus anciens appréciée par Hugo. Il a 17 ans, il est venu avec son père ce matin. Hugo qui a été visiblement sensible à l'appel du chef de l'État à la jeunesse.
Ça a été un discours fort en émotion et fort pour toutes les générations, notamment la mienne. Un discours à faire attention à ce qu'on peut entendre, aux marchands de sommeil qui veulent essayer d'endormir l'esprit citoyen des jeunes. Et c'est important d'être là.
Beaucoup de militaires aussi issus de l'école interarmes de Saint-Cyr-Couët-Quidan, école où Arnaud Beltrame était sorti major en 1999. Joël a suivi cette même formation 20 ans plus tôt. Il est aujourd'hui à la retraite et il cherchait un petit peu ses mots ce matin.
On se retrouve en lui, là. Notre école nous a formés de cette façon et peut-être qu'en liant ces fonctions-là, à sa place, on aurait fait la même chose.
Quand Emmanuel Macron parle de cette part de mystère qu'il y a dans l'engagement, qu'est-ce que c'est cette part de mystère ?
C'est difficile à exprimer parce que c'est des choses qu'on ressent. C'est difficile à exprimer par des mots. Difficile à exprimer par des mots parce que là, c'est vraiment interne. D'ailleurs, je suis très ému en vous parlant parce que ça, y a plein de choses qui remontent.
L'abnégation, le dépassement et le don de soi qui parlent à plus que d'autres, avec ou sans raison, malgré le ciel chargé et quelques larmes dans les yeux des militaires. Il y avait aussi de la lumière ce matin pour célébrer l'esprit républicain grâce à ce comportement exemplaire du colonel Beltrame.
Dont les obsèques seront célébrées demain à Ferrales-les-Corbières. Les trois autres victimes du djihadiste de l'Aude seront également inhumées demain. L'employé du Super U, Christian Medves, et l'ancien maçon Hervé Sosna à Trèbes, le viticulteur à la retraite Jean Mazière dans son village de Ville-d'Hubert. Rappelons que 15 personnes ont été blessées dans les attaques de Trèbes et de Carcassonne. Renato Silva, 26 ans, est toujours dans un état grave. Lors de son allocution aux Invalides, Emmanuel Macron a également évoqué le meurtre de Mireille Knoll, cette vieille dame juive tuée dans son appartement parisien vendredi dernier. Rapprochant ces deux drames, le président a dénoncé un même obscurantisme barbare. Ce soir, une marche blanche est organisée à Paris. Il y a aussi des rassemblements dans plusieurs villes pour dénoncer ce crime à caractère antisémite. Boris Loumagne, vous êtes place de la Bastille, point de départ de la marche blanche. Qui a répondu à l'appel qui a été relayé par toute la classe politique ?
Alors ici, place de la Nation, quelques centaines de personnes pour le moment, de toutes origines, de toutes communautés. C'est le message d'ailleurs que veulent faire passer les participants à cette marche blanche. C'est toute la France qui est touchée, vient de me glisser Faïza, une simple citoyenne musulmane et qui espère que ce rassemblement symbolisera l'unité de la nation, me dit-elle. À ses côtés, Jean-Pierre, athée, qui a parcouru une trentaine de kilomètres pour être ici, place de la Nation. L'islamisme ne triomphera pas, tempête-t-il, avant de conclure que les humanistes se doivent d'être présents ce soir. Du côté des personnalités politiques, on attend toujours l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Une quinzaine de ministres devraient être également présents. Les figures de l'opposition sont également attendues, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Et ce, malgré le fait que le président du Conseil représentatif des institutions juives de France ne souhaitait pas leur présence.
Emmanuel Macron l'a dit solennellement ce matin, Mireille Knoll a été assassinée parce qu'elle était juive. Mais est-ce qu'on sait précisément pourquoi et dans quelles circonstances elle a été attaquée, Boris ?
Alors il reste de nombreuses zones d'ombre dans ce dossier. Concentrons-nous d'abord sur les faits avérés. Vendredi dernier, les pompiers interviennent pour un départ de feu dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris. Sur place, ils découvrent le corps à moitié calciné de Mireille Knoll. Elle a reçu une dizaine de coups de couteau. L'enquête progresse vite. Deux suspects sont arrêtés. Le premier est un voisin de la victime, un homme déjà condamné pour viol et agression sexuelle. Le second suspect est un ami du premier, un sans-abri, connu de la justice pour des faits de vol et de violence. Depuis leur arrestation, les deux complices présumés se rejettent la responsabilité du crime. Le SDF affirmant que c'est son ami qui a crié « Allah Akbar » au moment de poignarder l'octogénaire. Et puis il y aurait cette déclaration d'un des deux suspects « C'est une juive, elle doit avoir de l'argent ». Voilà donc pourquoi le caractère antisémite de l'agression a été retenu. Pour autant, le motif initial du meurtre pourrait être le vol, c'est ce qu'indiquent les enquêteurs. Quoi qu'il en soit, les deux hommes ont bien été mis en examen pour homicide à caractère antisémite. Rappelons qu'en France, les juifs représentent 1% de la population et qu'ils sont visés par 38% des actes racistes.
Boris Loumagne en direct de la place de la Nation avec Jérémy Tuile à la technique. Et puis des tags et des dégradations à caractère antisémite ont été découverts dans un local de l'Union des étudiants juifs de France installé au sein de l'Université Paris 1. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, condamne ces dégradations avec la plus grande fermeté. Prison, centre de rétention, hôpitaux psychiatriques, centres fermés, les lieux de privation de liberté respectent de moins en moins les droits fondamentaux de personnes. C'est ce qui ressort du rapport annuel d'Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. L'institution indépendante s'inquiète d'un net recul des droits dans ces lieux, mais également dans l'esprit des lois qui régissent ces lieux, Cécile de Kervas-Douai.
Oui, Adeline Hazan insiste sur ce point. Depuis 2007, le contexte a changé et l'idée que l'enfermement ne doit pas s'accompagner de violations des droits fondamentaux semble s'être étiolé, car dès 2008, avec la création de la rétention de sûreté, la notion de dangerosité a remplacé celle de culpabilité. Et ce glissement a ensuite inspiré bien des décisions politiques face aux attentats terroristes, à l'état d'urgence ou à la crise migratoire. Toutes ces mesures prises dans ce contexte marquent, dit-elle, un affaiblissement du rôle des juges au profit de l'exécutif. Résultat, les droits fondamentaux sont de moins en moins respectés. La surpopulation carcérale s'est ainsi aggravée avec des prisons occupées à 118% et des pics à 200% en Île-de-France. Le rapport note aussi l'augmentation inquiétante des mineurs incarcérés et rappelle l'urgence d'éviter l'incarcération pour les courtes peines et d'instaurer des peines alternatives. Sur ce point d'ailleurs, le président Macron a annoncé le 6 mars dernier que la prison serait dorénavant réservée aux cas les plus graves. Ce sont les centres de rétention pour les personnes étrangères qui sont particulièrement au cœur des préoccupations de ce rapport, qui dénonce des procédures sommaires pour les reconduites à la frontière, le manque d'information des personnes étrangères et des conditions d'enfermement indignes, surtout l'enfermement d'enfants, ce qui est contraire au droit. Les mineurs sont souvent évoqués dans ce rapport, dans les hôpitaux psychiatriques, mais surtout aussi dans les centres fermés pour adolescents, dont deux n'ont pas pu être visités parce qu'ils étaient sous le coup d'une procédure pénale. Problème de discipline, de violence, manque de formation des encadrants. Le rapport demande donc que soit d'urgence mis en place des procédures pour mieux encadrer ces jeunes enfermés. Car c'est la conclusion d'Adeline Hazan. Si le constat est sombre, les 148 contrôles qui ont été effectués cette année via des visites aboutissent dans la plupart des cas à la mise en place de meilleures pratiques.
Cécile de Kervas-Doué. Un nouveau préfet pour apaiser Mayotte face au mouvement de contestation qui dure depuis plus d'un mois sur l'île. Édouard Philippe annonce la nomination de Dominique Saurin, actuel directeur de cabinet d'Agnick Girardin. Il sera en poste avant la fin de la semaine et devra mettre en œuvre la feuille de route annoncée par la ministre des Outre-mer. L'État français espère ainsi donner un nouveau départ à ses relations mouvementées avec le département, Stéphane Robert.
La ministre de l'Outre-mer a décidé de nommer nouveau préfet de Mayotte son propre directeur de cabinet au ministère, un homme en qui elle a toute confiance, Dominique Saurin.
Nous allons mettre en forme une nouvelle méthode de travail, une nouvelle approche, une nouvelle affirmation du rôle de l'État aussi sur la place. Parce qu'il est question aussi du renforcement du rôle de l'État sur le territoire.
Cette nomination résonne comme un profond désaveu vis-à-vis des autorités sur place. D'ailleurs, Annick Girardin reconnaît que jusqu'ici, l'État français n'a pas vraiment été exemplaire dans la nomination de ses représentants à Mayotte.
Est-ce que vous savez que c'est la première fois qu'il y a une nomination de ce genre à Mayotte? Parce qu'habituellement, c'est des préfets qui n'ont pas encore exercé sur un territoire. Et c'est la même chose d'ailleurs pour la Guyane.
On peut aussi se demander pourquoi la ministre a attendu si longtemps, 6 à 7 semaines d'un mouvement qui s'est enlisé dans la contestation, avant de prendre le problème à bras-le-corps.
Alors moi j'ai attendu rien du tout. Cette crise elle est arrivée, moi je savais qu'il y en aurait une. Quand, je ne savais pas. Et soyez bien consciente que le dossier de Mayotte, je le connaissais même avant de venir ici. Mais la ministre des Outre-mer, elle travaille en interministériel. Et donc ça lui prend quand même quelques jours de travailler avec ses collègues pour monter une réponse. Et croyez-moi, on est allé beaucoup plus vite que, on va dire, en temps normal.
En réalité, le gouvernement a traîné les pieds. Avec un objectif qui ressemblait à une obsession, organiser coûte que coûte l'élection législative partielle qui s'est tenue les deux week-ends précédents. Et puis, il y avait peut-être aussi la perspective en France du conflit à la SNCF, commente un acteur du dossier. Il est possible que l'État français ne voulait surtout pas montrer aux cheminots qu'il pouvait plier sous la pression d'un mouvement de contestation. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a un peu laissé pourrir la situation. Aujourd'hui terminé, nous promettons, la ministre envoie un de ses très proches, quelqu'un de compétent, qui a un mois pour renouer un lien de confiance avec les acteurs locaux et proposer des solutions durables aux problèmes des Mahorais. Il prend l'avion demain soir avec le titre d'envoyé spécial du gouvernement.
Pour Adèle Van Rett, c'est le plus grand des philosophes contemporains. Clément Rosset, penseur du réel, est décédé à 78 ans. Dans son œuvre, le philosophe avait entrepris de réfuter toutes les illusions que les hommes nourrissent au sujet du réel. Un réel à la fois cruel et indicible dont nous sommes tentés de nous faire une image adoucie. Véronique Ruberot a joint Frédéric Schifter. Le philosophe souligne le côté iconoclaste de Clément Rosset.
Clément Rosset était un philosophe qui avait vraiment le souci de la clarté, de la distinction, comme disait Descartes, et c'est peut-être pour ça qu'il est vraiment un philosophe français, mais vraiment dans le au sens le plus caractéristique du terme. Et de plus, c'était un philosophe qui avait aussi un esprit très caustique. Il détestait les faiseurs de systèmes, enfin, ce qu'il appelait le blabla. Et donc, il allait toujours à l'essentiel. Et évidemment, il s'amusait à critiquer ce contemporain en évoquant des penseurs peu communs comme Hergé. Il est vrai que Tintin revenait souvent dans ses œuvres comme illustration de ses propos philosophiques.
C'était pas académique, on va dire.
Alors, il pouvait l'être. Bon, il pouvait naturellement se référer à Kant ou à Hegel. Et surtout à Schopenhauer, hein, parce que c'était quand même quelqu'un qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur Schopenhauer. Mais il est vrai aussi que dans ses œuvres, abondent des références à la bande dessinée, au cinéma aussi. C'était un grand cinéphile. Alors, ce n'est pas du tout un pop philosophe, hein, détrompons-nous, hein, tout de suite. Non, c'était un homme qui jonglait comme ça avec les références à la fois très érudites et plus, disons, plus populaires, voilà. Et il était, et c'était un penseur très pertinent, très percutant et très profond.
Et sur France Culture, Radel Van Rett rendra bien sûr hommage à Clément Rosset dans Les Chemins de la Philosophie. C'était jour de deuil national en Russie. Les drapeaux ont été mis en berne dans tout le pays en mémoire des 64 victimes de l'incendie du centre commercial Kemerovo en Sibérie. Cette tragédie, que beaucoup jugent liée à la corruption, a suscité d'autant plus de colère que 41 enfants sont morts dans l'incendie, Claude Bruyot.
Alors si le deuil national voulu par Vladimir Poutine servait effectivement à dissiper cette colère, l'objectif du pouvoir n'est pas sûr d'avoir été totalement atteint. Accompagné d'une demi-douzaine d'arrestations et de destitutions de responsables locaux, cette journée spéciale d'hommage aux victimes de l'incendie de Kemerovo a été décidée sur le tard et sous la pression, car le problème reste entier pour le président russe. Impossible de nier le constat selon lequel 41 enfants sont morts victimes directes de la corruption. Quand le laxisme et les pots de vin s'imposent face à des mesures de sécurité finalement non respectées, la colère de parents et de grands-parents ne peut s'estomper en un jour. Dès hier, sans chercher à récupérer l'émotion, l'opposant Alexei Navalny, dans une manifestation de recueillement, a lu comme tout le monde les pancartes « La corruption tue nos enfants » et entendu comme tout le monde les Poutines démission à Moscou, à 4 heures d'avion de Kemerovo. La première onde de choc est passée. Toute la question est de savoir maintenant si le mouvement, aujourd'hui épidermique et sous le coup de l'émotion, pourrait devenir plus durable et plus politique.
Claude Bruyot, correspondant de France Culture en Russie. Le scrutin présidentiel s'achève en Égypte. Pendant 3 jours, des chansons patriotiques étaient diffusées pour inciter les Égyptiens à aller voter pour le président Sissi. Sans réel opposant, il sera réélu de toute façon. Mais le pouvoir a recouru à divers moyens de pression pour amplifier la participation. Avec François Humfer Kataji au Caire, retour sur ces 3 jours d'élection.
Cet après-midi encore, des pick-up décorés d'images du président Sissi parcouraient les rues de la capitale. À l'arrière des enceintes crachaient des chants pro-armés et des hommes lançaient aux passants des chips, des jus de fruits ou du chocolat. Devant un bureau de vote du quartier de Sayeda Zainab, un DJ assurait l'ambiance et des jeunes femmes étaient payées pour faire mine de faire la queue. Hier, nous avons rencontré un professeur qui affirmait que sa direction l'avait obligé à voter en le menaçant de ne pas le payer cette semaine s'il ne signait pas la liste d'émargement. Le gouverneur de Wadi El-Gedid, lui, a même organisé une compétition entre villages. Le village qui obtiendra le plus haut taux de participation sera récompensé par un investissement de 7 millions d'euros dans les services publics. Alors bien que la compétition soit inexistante, le pouvoir voudrait se prévaloir d'un fort taux de participation et prouver sa légitimité. Osam Bargat est responsable du seul site d'information indépendant en Égypte, Madame Asr.
It's really a dilemma and he doesn't want popular mobilization.
C'est vraiment un paradoxe. Il ne permet pas aux gens de s'investir en politique, en militant par exemple. Et dans le même temps, il ne veut pas non plus que les gens boycottent ou ignorent l'élection. Il exige un amour inconditionnel et être adoré, mais ne laisse pas la place pour une réelle compétition. Le taux de participation pourrait être connu demain et la haute commission électorale devrait donner les résultats dimanche prochain.
Une commission britannique indépendante s'inquiète du sort de l'ancien président égyptien islamiste Mohamed Morsi. Condamné à un total de 45 ans de prison, Mohamed Morsi est maintenu à l'isolement 23 heures par jour dans des conditions de détention qui pourraient relever de la torture ou du traitement cruel, inhumain ou dégradant, affirme la commission, qui dit redouter sa mort prématurée. La nouvelle peut sembler surprenante venue d'Allemagne. La fécondité y atteint un niveau jamais vu depuis 1973. En 2016, en effet, les naissances ont fait un bond de 7%, ce qui place l'Allemagne dans la moyenne européenne de l'indice de fécondité. C'est parmi les facteurs de cette envolée de naissances, Cyril Sauvageau, l'afflux historique de migrants dans le pays qui peut être noté.
Et ce sont les mamans d'origine étrangère qui ont le plus contribué à ce sursaut de la natalité. Selon les chiffres de l'Institut de Statis, elles ont donné naissance en 2016 à environ 184 000 enfants, soit 25% de plus que l'année précédente, alors que pour les mères allemandes, la hausse n'est que de 3%. L'arrivée pendant la crise des réfugiés de nombreuses familles venues de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan explique en grande partie cette tendance, des pays où la natalité est beaucoup plus élevée. D'ailleurs, en tête des communautés les plus fécondes, on trouve les Syriens. 18 500 enfants syriens sont nés sur le sol allemand en 2016. Le phénomène migratoire n'est pas, cela dit, la seule explication. Les années précédentes, l'Allemagne avait déjà enregistré un rebond plus modeste de la natalité. La politique nataliste mise en place à grands frais ces 10 dernières années commence, semble-t-il, à porter ses fruits. Mais ces chiffres positifs doivent être relativisés. Ils ne suffiront pas à inverser la tendance et enrayer le déclin démographique du pays après 40 ans de natalité en berne. La baisse inéluctable de la population et l'épée de Damoclès du financement des retraites restent une préoccupation majeure pour l'Allemagne. Les chiffres de 2016 risquent de n'être guère plus qu'une embellie passagère.
On verra bien. Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci. Météo France prévoit des éclaircies demain, mais également des giboulées orageuses sur le nord-ouest. Les minimales seront en légère baisse de 1 à 9 degrés. L'après-midi, il fera entre 9 et 14 degrés, 14 à 19 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.